Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Bonjour Leïla, bonjour Daniel Morin.
Salut.
Et bonjour à toute la bande qui est enregistrée. Très joyeux Noël à toutes et à tous. Cadeau ce matin, une bande originale gourmande et de saison, puisque notre invité est Cyril Lignac.
J'ai apporté une salade de riz. On a fêté Noël en studio. C'est ce qu'on dit
c'est, non, mais c'est là où on voit que c'est une rediffusion. Oh, ouais. Parce que Cyril, lui, au moins, était venu avec des gâteaux frais.
Salade de riz.
C'est une tristesse.
Quel accueil.
Bonjour Cyril, ouais, la foule en délire, c'est Bercy au grand complet. Bienvenue en tout cas, ravi, comment allez-vous?
Ça va super.
Bon, une actualité chargée. Hein. D'abord un nouveau livre qui s'appelle Saison, le bien nommé, un bel ouvrage comme on dit, hein, ne serait-ce que la texture, la couverture est bien, comment dirais-je, bien travaillée. D'ailleurs, à quel point vous vous mêlez du livre dans
l'objet,
son esthétique, ouais, l'objet en lui-même. À quel point vous dites oui, je voudrais qu'il soit de cette couleur-là, de ce grammage, de ce papier glacé. Comment ça se passe?
Ben, du coup. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entreprend,
ouais.
Le livre, c'est un projet commun. C'est-à-dire que de la cuisine jusqu'au bureau, en passant par Vanessa qui est à la presse ou Laurence qui est l'ADG du groupe, chacune met son grain de sel pour que justement ce livre soit un projet commun et que tout le monde soit intégré.
Et j'imagine qu'aux éditions de la Martinière aussi, ils vous disent il faut se distinguer des autres livres de cuisine. Ils ont même pas le droit de faire du bas de gamme tellement ils ont cette réputation. Alors c'est 80 saisons, du moins ça s'appelle Saison et il y a pas que
80 saisons.
80 saisons, c'est pas aujourd'hui.
Et si, bah figure-toi que c'est bah ouais, t'aurais dû faire attention. Bah si, vous avez vécu 80 saisons à Paris. Non, ça fait pas 20 ans que vous êtes par Ego?
Ah si, ça fait 20 ans.
Et ben donc 80 saisons.
Oh là là.
L'ouverture du livre dit qu'il y a eu 80 saisons à Paris. Et que donc, l'idée est d'enchaîner sur 80 recettes. Le temps de donner à Cyril Lignac son livre pour qu'il le lise. On va vous poser des questions.
J'ai l'impression qu'on soit Jack Lang. Hein.
un truc de Cyril Lignac, avant de déguster ses gâteaux pour ne pas grossir.
Mais il appelle Vanessa pour avoir la recette?
Non.
Non, c'est un bon régime avant?
Non.
Ah, avant?
Il recrache.
Il boit quelque chose?
Non, il mange quelque chose.
Ah, il mange quelque chose.
Ouais.
Du pain?
De l'acide?
Non.
Des agrumes, quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait manger pour éviter?
Du vinaigre.
Je savais pas que c'était un coupe-faim, en tout cas, apparemment.
La pomme?
De l'eau chaude?
Oh, la cocaïne?
Non.
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 Ah ouais, ça m'intéresse.
Un truc illégal.
Genre pour pas finir le gâteau en entier.
Un truc illégal.
Ah.
Qu'est-ce qu'on peut...
Un truc coupe fin. Ah, de l'eau pétillante?
Il fait. Non, il mange quelque chose avant.
Oh, du riz.
Un légume.
Légume. Légume.
Une banane.
Non. Non.
Légume.
Légume.
Ouais, mais ça dépend selon les régions. La banane.
La banane. Le plantain, alors, est un légume.
Oui,
mais
pas
la banane. Oui. Qu'on peut trouver en toute
la
saison.
Carotte.
Oui. Absolument. Bien vu. Vous mangez des carottes pour ne pas... Enfin, la légende dit que vous mangez des carottes.
C'est marrant que vous ayez dit ça, en fait, des carottes. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de légumes, c'est difficile la question quand même.
Bon, non, on a fait 54, donc on a...
Ouais, mais il y a un petit côté...
Oui, en fait, comme on mange des gâteaux toute la journée, à le moment de la dégustation, j'essaie de manger avant, style des carottes, et j'aime bien ça d'ailleurs, une salade de carottes bien assaisonnée. Comme ça, ça te coupe un peu l'appétit, et t'évites de te baffrer de gâteaux en fait.
Ouais.
Parce que comme c'est bon, moi je peux pas m'arrêter.
Enfin, physiquement, vous êtes de tous les chefs que l'on a reçus le plus svelte de tous. Vous avez un truc, vous faites du sport, vous faites gaffe.
Oui.
Vous mangez pas trop sucré parce qu'on sait que le sucre, c'est la balle. Ah bon, c'est terrible.
Non mais c'est terrible, j'aime ça. Donc, et puis là encore,
c'est une drogue. C'est une drogue le sucre.
Non mais c'est
qu'on en mange,
bon,
on en
c'est
mange.
Réconfortant.
Oui, on en a envie d'autres.
Et t'en as envie, et quand c'est bon, t'es là, ça sent la pâtisserie sous la tente, t'as juste envie de manger des gâteaux, quoi.
Puis ça envoie un réflexe, ça envoie un message de bien-être, tout d'un coup.
Question suivante sur Cyril Lignac. Quel sport pratique-t-il pour se détendre?
Le karaté?
Non.
La course?
Non.
La boxe?
Non.
Le vélo?
Non.
La
planche à voile, très pratique à Paris, la planche à voile.
Il fait du yoga.
Il fait
de la boxe du sud. Boxe, yoga.
Non.
Jokari.
Non.
Foot.
C'est
tennis.
C'est un sport tennis. Qu'on ne peut pas faire seul.
Squash. Badminton.
Squash.
Non. Pour se détendre, c'est pas non plus. Enfin, c'est physique, hein, mais c'est pas non plus.
Bill Bocquet.
Du rock'n'roll.
Bill Bocquet.
Non. On ne peut pas faire tout seul.
Sport qu'on ne peut pas faire tout seul. Non. C'est vrai que la pétanque seule, c'est un grand moment de solitude.
C'est chiant, c'est pour ça.
J'y avais jamais pensé. Bah ouais. Autant un tennis, tu peux faire un mur, autant la pétanque, c'est quand même, t'es très, très, très ennuyé.
C'est un truc pour se détendre.
Ouais,
c'est connu ton sport.
C'est connu, ça peut même, la France est globalement bien classée aux Jeux Olympiques dans ce sport.
Handball ?
Et on peut le faire dans un esprit de compétition ou de promenade.
Ah, cheval,
marche. Exactement. Putain, en forme, Morin. L'équitation, oui. Alors, l'équitation, c'est promenade en forêt ou vous sautez des obstacles?
Les deux, mon général. Mais en fait, je joue en polo.
Et ah oui, ça donc, déstresse.
Donc, balade en forêt
ou polo.
Alors là, avec des copains.
Polo, c'est costaud. C'est dur. C'est les Argentins qui sont très bons
en
polo.
C'est les Argentins. C'est un sport qui vient d'Argentine. En fait, l'équitation, c'est du bien-être, parce que quand tu pars en forêt avec un cheval, j'ai démarré l'équitation parce que la première fois où je suis remonté à cheval depuis quand j'étais gamin, je faisais un petit peu d'équitation. T'as cette sensation que le cheval absorbe ton stress et surtout le sentiment que quand t'es à cheval, tu penses à rien d'autre.
Alors que normalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire un cavalier stressé peut
stresser le cheval.
Exactement.
Ouais. Mais c'est surtout ce sentiment de tout oublier. Tu vois, de partir en forêt, de se balader, de
ça, je suis d'accord,
respirer.
Mais le polo, ça remet un stress parce qu'il y a de la compétition, il faut marquer, il faut...
C'est pas le même stress, c'est plutôt de l'adrénaline.
D'accord, ouais.
Et à la fois, quand on joue, tu penses absolument à rien. On a des métiers, enfin, en tout cas, moi, je pense sans cesse au travail, à ce que tout se passe bien dans les cuisines, à ce qu'on délivre les bons gâteaux, à ce que le client soit content. Et du coup, c'est toute la journée. Là, au moment où on est en train de parler, je me dis, est-ce que on va bien vendre le gâteau? Est-ce que le poisson est bien arrivé? Est-ce que la viande est bien? Est-ce que les cuisiniers sont tous au complet? Est-ce que c'est sans cesse des questionnements permanents? Et donc, du coup, quand tu es à cheval, t'as pas le choix.
À quel rythme jouez-vous au polo? C'est genre forcément une fois par semaine?
Minimum.
Ah oui, c'est sérieux. Mais vous êtes dans un club?
Oui, je suis dans un club, on a une équipe. Oui, c'est minimum une fois par semaine.
Ok. Et donc, vous faites de la compète, il y a des classements,
il
y a un championnat.
Fait de la compète, ça marche pas comme un championnat. C'est plutôt un tournoi.
D'accord.
Et donc, il faut essayer
c'est
de passer.
5 contre 5, c'est
4 contre 4.
4 contre 4, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Et 4 contre 4, 4 périodes.
Et c'est quand même dangereux. Un peu.
Oui, ça secoue un peu quand même.
Si, ouais, ça bouge. Le fruit que Cyril Lignac aime par-dessus tout.
La carotte. Le fruit.
Et c'est pas un fruit, Cyril, sans donner le fruit, c'est pas un fruit qu'on retrouve dans beaucoup de gâteaux, dans
litchi,
beaucoup de pâtisseries.
Yuzu ?
Kiwi ?
Si, on en trouve.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, non. T'as dit quoi,
litchi, kiwi ?
Yuzu, non ?
C'est un fruit européen ? Un fruit, oui, un fruit européen. Un fruit même du sud de la France.
L'orange ?
Le kaki ?
Non.
Le citron ?
La figue ?
Non.
L'été ?
Fanny ?
La fraise ?
Pas d'idée ?
Mais...
Il n'y a pas un fruit que tu aimes
Un melon ?
Le coin.
Joli ?
Ouais.
Allez !
Un point.
Bien vu. Parlons de ce melon de Cavaillon. Enfin, c'est le réflexe qu'on a, à moins qu'il y en ait d'autres ailleurs qui soient tout aussi bons.
C'est le sud de la France, il n'y a pas que Cavaillon. Mais ce que j'aime dans le melon, c'est déjà un fruit d'été. C'est gorgé d'eau et de sucre. On peut le manger en entrée, comme on peut le manger en dessert, comme on peut le manger au petit-déjeuner. C'est un fruit qui m'accompagne tout au long de la journée. Donc j'aime bien le manger.
Pourquoi on le retrouve s'il est si bon, si sucré dans peu de pâtisseries?
Parce que c'est un fruit
ça cuit mal. Ça
cuit très mal. Ouais. C'est un fruit qui rejette de l'eau. C'est un fruit qui, dès qu'il est en maturité,
La tomate rejette beaucoup d'eau aussi, et pourtant elle est faite à toutes les sauces.
Pas tellement dans les gâteaux non plus.
C'est clair.
Mais c'est un fruit. C'est un fruit qui, quand on le met à l'intérieur d'un gâteau, change de goût, en fait. Dès qu'on le sucre, dès qu'on le met dans une mousse, je l'aime naturel pour ce qu'il est, en fait. J'ai pas besoin de le travailler ni de le mettre à l'intérieur de...
Alors, allons plus loin, la pastèque que les Anglais appellent watermelon, c'est-à-dire que c'est qu'il décline la famille du melon.
J'aime moins.
Ah, vous aimez moins.
Il y a des pépins dedans.
Ah, c'est fainéant.
Cyril, 10 ans.
Quel est son plat préféré? Alors là, ça va y aller.
Français?
Je vais vous dire, oui.
De chez
français,
moi.
Puis alors le genre de truc que moi, je ne mange absolument pas.
Ah bah alors, du coup, du pot-au-feu.
Le quasi de veau?
Non.
Du bœuf bourguignon? Ah non,
l'escalope de veau? Il y a du veau?
Il y a du bœuf, mais il n'est pas bourguignon, c'est de sa région.
Oui, pardon, du bœuf, je sais pas moi.
Ah, la Ligo?
Non.
De la région, c'est quoi du bœuf?
Oui, à peu près.
Non, mais
du bœuf. La
région. Il y a du bœuf dedans.
Il y a du bœuf dedans, oui. Non, mais c'est que du bœuf, non?
Carpaccio?
C'est quoi votre plat préféré? C'est pas une côte de bœuf?
Si.
Côte de bœuf. Ah bah voilà, ok. Bon bah, c'est vrai, on va pas non plus délirer.
Bah c'est plutôt quelle pièce du...
En fait, comme il a dit, l'aligot, mais c'est la côte de bœuf avec de l'aligot, en fait, oui, c'est un produit de chez moi. Et surtout, l'aligot qui est une purée de pommes de terre.
On va donner le point à Tom, alors. On va donner le point à Tom Villa.
Demi.
Oui, on peut lui donner le point, hein.
Alors c'est quoi? C'est aubrac?
Aubrac. Il y a des belles bêtes. Et on a des belles côtes de bœuf, des beaux bœufs.
Le sourire du gars qui fait, il y a des belles bêtes.
Et ouais, mais parce que c'est, après, ouais, parce que ça me rappelle.
Je suis juste en train de les voir en train de se faire découper, mais.
Ah,
elle était belle.
Comme ça.
Ah, elle était belle.
Bah, c'est mieux que la manger, même la bête.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est surtout, bien sûr, la côte de bœuf, mais c'est surtout l'aligot, cette purée de pommes de terre avec de la tome, de l'aubrac, et que l'on fait fondre à l'intérieur de la purée avec un peu de crème fraîche, qui file, en fait, qui est un produit de montagne. Et que l'on peut manger avec de la saucisse, si on veut pas manger du bœuf, mais j'ai vraiment été élevé avec ça.
C'est une saucisse végétale, alors.
Oui, une saucisse de cochon.
Bah, un cochon, allez, on y va.
Une saucisse de pâquerette.
Quel est son gâteau préféré? Parce qu'il fait tous les gâteaux de la planète et ils sont très bons, les gâteaux de Cyril.
Millefeuille, Paris-Brest.
Non.
L'hamburger.
Baba au rhum.
Non, un truc.
Le flan.
Madeleine.
Un truc basique. Un truc même que les.
Gâteau yaourt.
Je me demande si c'est pas le premier gâteau que les enfants.
Un gâteau yaourt.
Non.
Premier. De sablé.
Il y a une dame qui a donné la bonne réponse dans le
cookie. Eh ben, on donne le point.
Mais c'est quoi votre définition de gâteau? Parce qu'un cookie, c'est pas un gâteau. À moins qu'on ait encore un.
Non, c'est vrai, c'est pas un gâteau, un cookie. Je suis
d'accord. C'est plutôt une sorte de flan, un truc.
Non, c'est un gâteau avec une crème à l'intérieur.
Tropézienne?
Un fraisier?
Un chou?
Non.
Une crème à l'intérieur.
Alors, c'est de la pâte à choux.
Ah, l'éclair?
Oui, mais alors quoi?
Chocolat, café, vanille, pistache, andalou, je sais pas.
Moutarde.
Passion, c'est quoi?
Citron?
Crocodile?
Mais regarde, t'as que la couleur de ton
sweat. Oui, bah, il est jaune, mais.
Non,
vanille,
il est
pas jaune. Hein.
Vanille, citron? Marron.
Il est pas jaune. Non, il est pas. Il est jaune-marron, donc.
Quelle couleur?
C'est quelque chose, ce truc là.
Non, mais dans un gâteau.
Dans un éclair. Non, ça c'est jaune.
Dans un gâteau.
Praline?
Mais non, mais
moka, non?
Mais
café.
Non,
crème pâtissière.
Mais non,
chocolat.
Alors là, c'est le
Madame,
truc.
Madame, vous mimez n'importe quoi derrière. Vous mimez n'importe quoi.
Ça me rappelle un film que j'ai vu hier. Mais
le truc, que je préfère au monde.
L'amour.
Mais oui, mais c'est un éclair.
Un éclair à l'amour.
Vanille.
Mais non.
Bah, je sais pas.
Regarde la couleur.
Caramel.
Oui.
Ah,
mais on l'a dit caramel.
Mais non, vous l'avez pas dit. Jamais.
Mais alors ça, c'est pas caramel.
Non.
Si vous voyez des caramels comme ça,
je suis daltonien. Je suis daltonien.
C'est caramel beurre salé.
Ça rappelle le caramel quand même.
C'est vrai que c'est sa signature.
Ouais,
c'est
de
sa
signature. Ouais, ouais.
Caramel beurre salé.
Comme le dit Leïla, c'est votre signature.
C'est de vos signatures en plus.
Oui.
Caramel beurre salé.
Disons que ce que j'aime dans le caramel beurre salé, c'est qu'il y a le passage entre la cuisine et la pâtisserie. Il y a ce petit goût de sel qui assaisonne l'éclair et qui donne ce côté un peu différent d'une pâtisserie traditionnelle juste sucrée.
Quelle est, enfin du moins c'est pas quelle est, non, quelle proposition de cinéma a-t-il refusé? On lui a proposé de jouer...
Un rôle de chef?
Un rôle...
Ratatouille.
Et il a refusé.
Ça j'ai fait.
Non, c'est un rôle de chef, oui. Mais rôle. Encore plus précis.
C'était dans le film avec Paul
Bocuse. Un biopic sur Jean-Pascal de la Starac.
Non.
Un film avec Jean Reno et Michael Youn, là où ils jouaient des chefs, non, c'est pas ça?
Bonne vanne, Fanny.
Merci de le reconnaître. Ouais, tu étais seul. Sur ce coup-là, tu étais seul.
Non, j'ai mis du temps à retrouver le visage du mec, mais d'un coup, ouais, je vois.
Génération.
Attends, un film qui a marché?
Un film américain?
Ah, il n'a pas marché.
Je ne sais pas quel est le film, il va nous le dire peut-être, mais en tout cas, le rôle, c'est un rôle d'un chef, oui, mais quel chef?
Ah, chef de l'Elysée?
C'est pas Bocuse.
Non.
Vivant ou mort?
Vivant.
Incarner un vrai chef?
Et que vous connaissez?
Piège?
Non.
Passard, non. Ducasse, Bocuse, qu'est-ce qu'il y a comme chef?
Il a refusé Ducasse. Le rôle d'un chef, un chef que l'on reçoit.
Lui-même.
Exactement, Fanny.
C'est plus facile quand tu donnes la réponse. Hein.
Vote, pourquoi?
Qu'on reçoit.
Ben non, mais on peut. Pardon, il y avait un côté intemporel dans, que l'on reçoit.
J'ai tendance à faire les trucs de conjugaison comme ça.
C'est réussi, c'est réussi. Le présent, c'est le présent. Ouais, c'est vrai que l'on reçoit maintenant, j'aurais dû dire.
Ah oui.
On vous a demandé de jouer votre propre rôle et vous avez refusé.
Oui, parce que.
Vous le sentiez pas?
Trop ingrat.
Ouais. Non, mais c'est pas tellement le fait de jouer son propre rôle, c'est plutôt le fait de faire du cinéma.
Vous voulez pas jouer les salauds, en fait.
Ou l'autre gentil.
C'est dégueulasse.
Non, mais, quand j'ai démarré, j'ai été donc chef, cuisinier, puis après j'ai démarré la télé, ça a été vraiment difficile pour moi. De sortir de cette image de chef de télé pour être compris, assumé comme un vrai chef et accepté
par les autres, d'accord.
Donc quand maintenant après autant d'années je suis sorti de cette image, c'est pas pour m'y remettre à travers le cinéma en fait.
Et on peut savoir le film ?
Ça n'a pas d'importance.
Je l'ai pas. Je le connais pas, celui-là. Tu l'as vu, toi, le sapin important?
Je sais pas s'il a marché, ça, en deuxième semaine, comme il a fait.
Il y a Christian Clavier dedans,
ou pas? C'était une comédie?
Sur M6, il faisait beaucoup de films où il faisait jouer des animateurs. Stéphane Plaza a joué, Valérie Damido a fait. Et donc, on m'avait proposé un film, de faire ce rôle-là, produit par Luc Besson. Et donc, du coup, c'était pas quelque chose que...
C'est chic quand même, enfin.
Oui, c'est très chic. Non, mais le sujet est pas là. C'est juste que c'est pas quelque chose.
C'est
que
l'image.
C'est voilà.
Mais vous avez donc pas mal souffert du regard de vos pères ou des gens de ce métier, en tout cas sur le chef de la télé. Est-il un vrai chef ou pas? C'est ça.
Mais le sujet, c'est que quand en France on essuie un peu les plâtres et qu'on passe un peu le premier, forcément.
C'est vrai en plus. Ouais.
Ça fait un peu grincer des dents et si t'es à la télé, c'est que t'es quand même respecté dans ton métier, dans ce que tu fais, que tu racontes pas des conneries quand même. Donc au bout d'un moment, le sujet devrait même plus se poser. Aujourd'hui, enfin, on fait des
choses cuisine passer à la télé. Passer à la télé n'est pas non plus une garantie de qualité pour, ouais, pour ceux qui y passent. Et on sait de quoi. Et on est bien placé pour le dire. C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est meilleur qu'un autre. C'est simplement.
Non, j'ai pas dit qu'on est meilleur qu'un autre.
On a saisi une chance que
tu sais de quoi tu parles.
Ouais.
Au moins, quand même.
Mais de toute façon, vous n'avez pas arrêté pour autant la télé.
Pas du tout.
Donc.
Pas du tout.
Il y a même des projets d'ailleurs avec Jean-François Piège.
Et puis ça fait 15 ans quand même. Donc.
C'est ça. Il y a des projets avec Piège ou pas? Ça,
oui.
C'est une vraie fausse rumeur ou...
Oui, non, il y a un projet avec Jean-François. Un match de cuisine entre potes.
À cheval.
En Italie.
Saison, donc, c'est l'idée de suivre les saisons. Est-ce que ça, c'est parce que notre planète ne va pas bien et que justement, on se dit qu'il faut respecter les saisons et ne pas spécialement aller chercher des tomates qui viennent du bout du monde ou un ananas en plein mois de janvier ou une mangue?
Déjà, c'est pas un livre moralisateur parce que je l'ai écrit plutôt en essayant de simplifier la vie et en se disant voilà, je classe les recettes par saison parce que bien entendu qu'il faut acheter des produits de saison, bien entendu qu'il faut faire travailler l'agriculture française, bien entendu que c'est mon cheval de bataille, c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui, en effet, la planète va mal, en effet, on mange pas les produits à la bonne saison et que il faut manger, je le saurais que dire, français, d'agriculture locale, locavore, le plus proche de chez nous.
Le problème, c'est que notre palais a commencé à prendre l'habitude d'avoir, restons avec la tomate, de manger toute l'année des tomates.
Ouais. Il est jamais trop tard quand même.
C'est vrai.
Notre métier de cuisinier aujourd'hui, au-delà de faire bien et bon, ce qui est quand même la normalité, c'est aujourd'hui de protéger notre agriculture, de protéger notre santé, de manger...
Mais en quoi ça peut abîmer la santé de manger de la tomate toute l'année?
Comment elle est cultivée? À quelle échelle? D'où ça vient? Comment c'est fait?
Comment elle a mûri surtout?
Elle a plus mûri
dans les cagettes qu'au soleil.
Forcément que ça, c'est déjà la première chose qui est très importante. La deuxième, c'est la pêche. La pêche locale, la pêche française, protéger aussi tout ce...
Enfin, en fait, quand je vous entends, le plus gros problème, c'est tout ce qui est industriel. Que ce soit la culture des fruits et légumes, ou que ce soit la pêche qui ravage les océans, c'est tout ce qui est industriel, pas ce qui est artisanal.
Oui, et c'est surtout que...
Et je pense que pour la viande, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que la viande élevée par un agriculteur qui a l'amour de ses bêtes n'a rien à voir au palais. Ouais. J'imagine qu'une viande dans un hangar élevée, c'est
une des choses. Mais moi, je veux vraiment me battre pour qu'on préserve l'agriculture française. Elle est vraiment en danger aujourd'hui. Et avec l'ouverture des frontières... On achète des poireaux en Hollande, on achète des poireaux en Belgique, alors qu'à côté de Paris, il y a des champs entiers de poireaux.
Parlons des recettes. Est-ce qu'il y a des saisons où c'est plus dur de cuisiner parce qu'on trouve justement moins de produits?
Est-ce que hiver
et automne, c'est plus délicat quand même que printemps et été?
Ouais, c'est un peu moins la fête en tout cas. Pardon, mais moi personnellement...
En ce moment, c'est l'endive.
t'as les champignons.
C'est un peu moins la fête, mais ça dépend ce qu'on a envie de manger.
Les champignons, les potirons, enfin, il y a plein de trucs.
Bien sûr, les soupes de potirons. Non, mais après. C'est assez paradoxal, mais moi j'aime la cuisine d'hiver parce que c'est une cuisine qui est gourmande, rassurante, avec de la crème, avec des légumes, en effet comme ça, l'endive, le potiron, le potimarron. C'est la période où on peut y aller avec le beurre, la crème, les coquilles Saint-Jacques. Donc forcément, moi, c'est tout ce que j'aime.
Après, la cuisine d'été, c'est... Pour un mec du Sud, c'est surprenant des milliers, non?
Mais je suis un mec du sud, mais je suis né dans l'Aveyron. C'est quand même une région.
Je suis un mec du sud, mais je suis né dans l'Aveyron. Non, mais... C'est le sud de l'Aveyron.
Ouais, c'est pas tellement le sud de la France quand même.
C'est plutôt le centre.
Oui. Donc du coup, on mettait beaucoup de crème, de beurre. Non mais j'ai pas été élevé à l'huile d'olive. Je suis pas né à Nice ou à Toulon. J'aurais adoré aussi, mais je suis quand même né dans une région agricole avec
gras,
des hivers rudes. On aime le grain, on fait les cochonailles. Oui. C'est quand même le vrai terroir, quoi. Donc j'ai vu plus ma mère cuisiner avec du beurre, de la crème, de la tomme, de l'aïeul, plutôt que de l'huile d'olive, quoi.
D'accord. Enfin, si
on faisait les graisses, on faisait les frites normande. À la graisse de canard, quoi.
Ah oui. Frites, graisse de canard.
Pardi.
Bah oui.
Et on tuait le cochon, et on faisait les canards, on faisait le foie gras.
La Hélène Darroze, quoi.
Et ouais, c'est... pardi. Eh oui.
Pardi. Alors, le.
Il vient de faire une injection.
Mais à un moment donné, il faut dire les choses, quoi.
Vas-y, Daniel.
Nagui a beaucoup de mal, là. Il imaginait le cochon qui se faisait éventrer en face de lui.
Ah, ça a un bruitage.
Non, c'est avec Nagui, on se régale. Un peu de tofu, un peu de graines de quinoa, de l'eau tiède. Hop là, c'est le réveillon, ça.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les saisons me plaisent. Et en effet, toutes les produits que l'on peut utiliser dans la cuisine sont intéressants tout au long de l'année. On est content aussi, c'est ce que je dis. On est content de retrouver les premières fraises fin avril. Si on en mange tout le temps, on n'a plus de plaisir.
Non mais moi, c'est une fête.
Les figues, les abricots.
Je pense que certaines générations se souviennent encore d'accompagner leur maman au marché pour voir si les fraises sont arrivées, les cerises sont arrivées.
Donc on est d'accord, la fête, c'est plutôt quand les fraises arrivent, quoi. Moi, je me dis pas quand le potimarron arrive. Enfin, tu vois, je me dis pas youpi. Pardon.
Quand t'as par exemple les marchands de marrons au coin des rues qui font ça, c'est quand même là, il y a un parfum d'hiver qui est agréable.
Ce qui me plaît dans l'écriture de ce livre,
châtaigne,
et de dire saison, c'est que on aime, et en effet, je comprends quand vous dites, oui, c'est pas la fête quand on arrive au mois d'octobre, qu'il commence à faire froid, il pleut à Paris, c'est gris. C'est sûr qu'on préfère le mois d'avril quand il commence à faire beau. On fréquente les terrasses, il y a les premiers fruits qui sont là.
Non,
forcément, on a besoin de ça.
Je comprends ce que vous dites sur la nourriture où on peut se lâcher et à la limite, on veut bien prendre un peu de graisse, un peu de gras pour passer l'hiver sans avoir trop froid, quoi. Oui, ça se voit moins et on met moins le maillot.
Là, on parle. On parle
diététique. Ouais.
Mais si je fais une bonne soupe de potimarron, là vous allez l'adorer. C'est sûr, avec de la châtaigne et une petite crème.
Non, mais je pense que sûr. Quoi que vous fassiez, elle va adorer de toute façon. Quoi que vous fassiez. Saison, c'est Cyril Lignat qui signe ce très bel ouvrage, parce que c'est un beau livre en plus avec de sublimes photos, des explications qui sont toujours d'ailleurs des recettes où il y a minimum 4 à 6 personnes. On peut pas mettre 2.
Non mais que... on divise la recette, Nagui.
Non mais j'entends, parce que il faut toujours avoir du monde pour faire vos recettes.
C'est une tradition.
Quand on s'aventure et qu'on a envie de prendre un livre de cuisine, de s'asseoir, d'aller faire le marché, de cuisiner, ça prend du temps, c'est fait pour faire plaisir.
Non mais c'est facile pour vous avez des amis, mais pour les gens qui, comme nous, n'avons aucun ami, on aimerait avoir des recettes individuelles ou à deux maximum.
On divise.
Tu divises.
On divise, aussi simple que ça.
Bah, aussi simple que ça,
c'est
oui.
Mathématique. Okay.
D'accord.
Saison, Cyril Lignac, c'est aux éditions de La Martinière. Tom Villa va vous poser des questions, mais en plus, il va vous donner les réponses, donc vous n'avez rien à faire. Laissez faire Tom Villa.
Thierry Lignac, bonjour, et ce matin c'est votre grande première dans la bande originale. Et...
plus on est de fous, plus on rit.
Exactement, Cyril. Alors ce matin je voulais...
sur un pigeon rosé, un cabillaud.
Il s'arrête jamais de bosser, Cyril, c'est infernal. En revanche, si vous pouviez vous poser 2 secondes que je puisse faire ma chronique...
Chacun voit midi à sa porte.
Voilà, ça c'est le bon sens aveyronnais. Voilà.
Pour savoir où on va, il faut pas oublier d'où on vient.
Ça je vous le fais pas dire, Cyril, surtout quand on réussit tout, comme vous.
Tout ce qui brille n'est pas d'or.
On va peut-être arrêter sur les proverbes. On va plutôt parler de votre actu, Cyril Lignac. Vous sortez un livre intitulé Saisons, avec donc des recettes qui suivent les 4 saisons, comme Nagui vient de le dire. Et rien que de le dire, on peut prendre jusqu'à...
4 kilos.
Exactement. Mais bon, parlons santé. Vous qui êtes quelqu'un de moderne et concerné par la bonne alimentation, je me demandais si ce que vous pensiez de la cuisine végane.
C'est génial.
C'est génial, d'accord. Bah c'est tout. Mais peut-être que vous pourriez nous donner une petite recette végane, comme ça.
Des pâtes avec une belle sauce tomate, un peu de...
viande hachée.
Ça, c'est pas vegan. Voilà. Non, vegan, c'est sans viande. Vous avez une vraie recette vegan?
Des pâtes.
Et voilà. Et ça marche avec quoi? Je sais pas, du tofu, des champignons.
Une côte de bœuf.
Ouais, définitivement. Véronée, vegan, ça va pas ensemble. Mais Cyril Lignac, je sens que vous êtes allé trois dans votre costume de chef. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je sens que vous avez un talent de comédien. Je pense même que vous pourriez être un très bon comédien. Si ça vous dit, on peut faire un petit casting test. Je vous préviens, c'est un rôle de composition. Vous allez jouer une femme qui s'appelle Isabelle, qui est mariée à Patrick, qui était maire d'une petite commune du 92, que nous appellerons Lavelois. Votre mari est en prison pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, et le reste, on va l'improviser. Allez, c'est parti. Isabelle, votre mari Patrick est en prison. Comment le vivez-vous?
C'est quelque chose de terrible pour moi.
Vous êtes déjà allé le voir au parloir de la prison?
J'ai eu cette chance de passer une demi-heure avec lui.
Et Patrick, lui, comment le vit-il?
Comme dans une colonie de vacances.
Non, attendez, restez dans le rôle, Cyril. Comment ça se passe le quotidien maintenant que vous vivez toute seule, Isabelle?
On fait comme on peut.
Là, c'est super. Quand la police est venue chercher votre mari, Patrick, vous l'avez vécu...
Avec beaucoup d'émotion.
Bah oui.
Je m'y attendais pas.
Bah oui, on pense toujours passer à travers les mailles du filet, et puis parfois, il y a quand même un prix à payer.
Donc le prix à payer, moi, j'ai rien fait de mal, je suis pas en cavale.
Non, mais je sais, enfin, il y a quand même eu fraude fiscale, sincèrement. Comment ça se passe quand vous faites vos déclarations d'impôts?
J'en fais pas beaucoup. Et quand j'en fais, ben j'ai plaisir à les faire.
Ben ouais. Pour terminer, Isabelle, que pensez-vous de l'acharnement des médias à votre rencontre?
Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi.
Bravo, Cyril. Écoutez, s'il y a un biopic, garde votre numéro, parce qu'avec une petite teinture blonde, des lunettes moches et une mini doudoune, à mon avis, vous avez le rôle.
Ça passe, merci. Bravo, Tommy.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux avec Izia et Dominique A. Esselé.
Pourtant, je préfère quand elle chante toute
seule. J'adore ce titre, arrêtez.
Pourtant, ils sont deux,
c'est ça. Moi, c'est la moitié.
Bon.
Esselé. J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou. Parfois. Esselé. Silence. Laisse-les
La bande originale ce matin, c'est avec Cyril Lignac pour son nouveau livre de recettes indispensable. Il s'appelle Saison, son livre.
Ouais, bah moi, ça me donne faim, je vais voir s'il reste des huîtres dans la poubelle de la cantoche.
Vous disiez tout à l'heure, Cyril Lignac, votre souci de suivre les saisons et de sauver l'agriculture. Ça, vous l'entendez de la part des producteurs, de ceux chez qui vous allez vous fournir. Ils sont inquiets?
Oui, ils sont inquiets. J'ai fait des émissions où on allait chez les agriculteurs, on allait du champ à l'assiette.
Ouais.
Donc j'ai fait vraiment un grand tour de France il y a quelques années, mais il y avait déjà ce souci, il y avait déjà cette concurrence, il y avait déjà le fait que nos agriculteurs se battent pas avec les mêmes armes que l'Espagne ou que ailleurs en termes de prix. Et donc du coup aujourd'hui, j'entends que quand on va faire les courses, ben on regarde quand même le prix. Et que forcément,
donc les agriculteurs devraient être contents qu'il y ait cet engouement pour consommer localement et suivre les saisons. Ça, les agriculteurs devraient l'entendre et apprécier ce discours anti aussi et qui va avec anti-pesticides, anti-glyphosate et anti-saloperies.
Sauf qu'aujourd'hui, les grossistes qui achètent en grande quantité les légumes n'achètent pas que en France. Et donc du coup, ça inonde le marché de produits différents. Et quand vous allez
donc c'est au consommateur,
c'est au consommateur de faire choisir. De toute manière, aujourd'hui, on peut pas vivre dans un pays où on dit ben stop ce qui se passe à l'extérieur. Non. Sauf que le consommateur, il a le choix.
Après,
et choisir, c'est renoncer. Donc au bout d'un moment, il faut se dire que ben, y a des fraises, c'est pas la saison. Il y a des tomates, c'est pas la saison. C'est pas français. Et c'est aussi une manière de repenser notre alimentation.
Je suis d'accord.
Pour aussi avoir le plaisir de retrouver les choses.
Non, mais c'est une manière de redonner le pouvoir aussi aux consommateurs.
Mais c'est une histoire de coût, j'entends complètement. Mais c'est-à-dire, en ce moment, il y a des clémentines, il y a les clémentines qui viennent de Corse, il y a les clémentines qui viennent d'Espagne ou les clémentines qui viennent d'Israël. C'est pas exactement le même prix.
Et moi, je préfère manger moins.
Voilà, mais ça,
et manger la Corse.
Je comprends, mais ça c'est parce qu'on est dans une problématique de riche, j'ai envie de vous dire en fait. C'est-à-dire que en faisant attention à notre panier, on a quand même les moyens de manger des clémentines. Sauf que si on veut acheter vraiment français, le prix il est quasiment du simple au double. Je voyais moi dans mon simple quartier, c'est le prix de la clémentine bio corse.
Ouais, t'as raison,
on en achète 3 quoi, et on se dit déjà c'est pas mal. Donc si j'avais une famille à nourrir, si j'avais des enfants à qui je voulais donner une alimentation équilibrée, je pense que je serais embêtée.
Sauf que j'entends tout ça, et au bout d'un moment, bien entendu, que il faut, si on continue comme ça et si tout le monde parle comme ça, on s'en sortira pas. Non, on n'aura plus d'agriculture chez nous. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
Non, mais là où il a raison, c'est que le réflexe, quand on fait les courses, il est immédiat. Il est
je comprends.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Et pas, je vais
et
aider la clémentine.
Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
Non, mais je suis d'accord.
Mais on
nous disait aussi 5 fruits et légumes par jour. Donc, il y a un moment, t'achètes en gros,
Le sujet, aujourd'hui, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me touche. Déjà, pour plusieurs raisons, c'est déjà souvent notre agriculture, c'est quand même la base de notre pays. Aujourd'hui, dans ma pâtisserie, on fait du beurre, du lait, de la crème, de la farine, des œufs français. Demain, je pourrais acheter de la crème, du lait ailleurs qu'en France. Je la paierais 30% moins cher et personne n'y verrait rien. Et mes gâteaux seraient, à mon sens, moins bon, parce que une crème fouettée française de Normandie, ça a quand même une autre gueule qu'une crème de la Pologne. Mais en effet, c'est plus cher. Ben, je m'assois sur une marge, mais c'est pas grave. Parce que je me dis que, quand je vois les enfants, les parents qui viennent acheter...
Même en vous asseyant sur une marge, Cyril, vous êtes quand même plus cher que la pâtisserie du coin de rue.
Ben
oui, c'est la même problématique.
C'est normal.
Ben, je l'entends.
On paye vos choix.
Pas
au final.
Mais si
je l'entends, mais
pas tant que ça non plus. Pas 30% plus.
La baguette de pain, elle n'est pas guère plus chère chez moi que chez le boulanger d'à côté. Et aujourd'hui, on fait des croissants, on fait les viennoiseries nous-mêmes avec du beurre français, en respectant l'artisanat français.
Ça veut dire que c'est pas le consommateur qui met la main à la poche, c'est vous qui faites cet effort, considérant que c'est meilleur.
Considérant que je me dois de faire, bien sûr.
C'est dans les deux sens.
On va continuer d'en parler. Vous voyez, en tout cas, que c'est passionnant. Et puis, ce livre aussi est passionnant. Saison aux éditions de la Martinière, signé Cyril Lignac. Voici.
Salut les vieux.
Ça va Fanny?
Mais oui, vous.
Très bien, merci. C'est gentil, c'est gentil de vous inquiéter.
Il fallait pas répondre, c'était un piège.
Ah, pardon.
Ah, écoute, ils ont un peu de mal encore, ils débutent. Bon, les amis, j'ai regardé un documentaire ce week-end qui s'appelle Laughing Matters, dans lequel des humoristes parlent de leur rapport à la santé mentale. Parce que vous le savez, beaucoup de gens comiques sont des clowns tristes. Ils souffrent de troubles mentaux, de dépression, d'addiction, tout ça. Robin Williams s'est suicidé. Lenny Bruce est mort d'une overdose. Guillermo Guise a clairement des problèmes d'alcool.
Ça, c'est vrai.
Et les chroniques où il encense son foie, ce sont pas des blagues, ce sont des appels à l'aide. Le mec, il passe son temps à dire qu'il veut crever dans des trucs et vous, vous êtes là. Hé, hey, super Ernesto. Ce pauvre gamin, il pense que vous êtes ses amis gosses. Mais donc, ce documentaire, il m'a fait me poser une question.
Redis le titre, pardon.
Laughing Matters.
Laughing matters. Plutôt que nothing matters, d'accord.
C'est un jeu de mots.
Non, mais parce que tu le dis avec un très bon accent qui fait que on comprend pas. Mais l'accent est formidable.
Je peux continuer?
Non, mais
ça va être hyper long cette chronique.
Donc ce documentaire, il m'a fait me poser une question. Quand Guillermo Guise va-t-il enfin crever? Et aussi, quel est le but de l'humour? Pourquoi fait-on des blagues? Alors, première raison de vouloir faire rire, eh bien pour s'intégrer, pour trouver sa place dans un groupe social. Parce que quand on n'a rien de spécial, quand on n'est ni beau, ni laid, ni bête, ni spécialement brillant, il faut bien se trouver une spécificité pour exister. Moi, à 10 ans, je passais mon temps à lire et mes meilleurs amis, c'était mes phasmes. Donc clairement, quand j'étais invitée aux anniversaires, c'est qu'il y avait besoin d'une piñata. Mais... quand j'ai commencé à faire des petites blagues dans la cour de récré, ben j'ai pas eu davantage d'amis et en plus mes phasmes sont morts donc c'était vraiment difficile. Mais au moins maintenant dans mon spectacle j'ai d'excellentes farces sur les phasmes et il n'y a pas de petite victoire. Deuxième raison de faire des blagues, ben pour être un connard sans se faire frapper. Parce qu'on peut tout dire en humour, ça passe. Si hors antenne je vais voir Daniel, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « tu me dégoûtes Daniel ».
Quelle traînée celle-là.
Il va encore tenter de m'étouffer avec ses rognures d'ongles. Par contre, si je dis dans une chronique, bah dis donc, Daniel Morand, il a la peau tellement grasse que je me vois dans son front, tout le monde va trouver ça normal.
Oui, on est d'accord même.
Troisième raison de faire de l'humour, bah faire rire quelqu'un, c'est grisant. Quand on voit qu'on fait rire quelqu'un, on reçoit un petit shot d'affection comme ça, de validation. Donc pourquoi prendre le risque de se laisser briser le cœur dans des relations sincères et profondes alors qu'on peut tout simplement monter sur scène chaque soir et se gaver de l'affection superficielle de parfaits inconnus? Alors forcément, il y a des moments où la solitude nous rattrape. Hein. Regardez Tom Villa, il joue son spectacle, il se fait acclamer par des dizaines de personnes et puis il rentre chez lui et comme par hasard, il m'appelle en pleurs à 4h du matin parce qu'il se sent seul. « Oui, s'il te plaît, Fanny, passe chez moi, promis, je mettrai juste le bout. » Du coup...
Du coup, c'est à 3h30. Non.
Évidemment, je dis toujours oui parce que quel meilleur lubrifiant que les larmes.
Mais ça va pas.
Quatrième raison de faire des blagues.
Je suis un peu excité.
Sacré Daniel. On t'invitera. Quatrième raison, c'est de faire des blagues ben pour fuir les discussions sérieuses. Ça, c'est vraiment systématique pour moi. Dès que les situations deviennent un peu trop sérieuses, dès qu'on me demande d'extérioriser ce que je ressens, je flippe et je fais des blagues pour ne pas avoir à affronter la réalité. La première fois que je suis allée chez ma psy, elle m'a demandé c'est quoi l'émotion que tu ressens le plus. Eh bien les amis, figurez-vous qu'une cystite n'est pas une émotion. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai fini par devenir plus ou moins humoriste, parce que j'en avais marre que ma psy me fasse remarquer que j'utilisais l'humour comme une porte de sortie. Donc maintenant que c'est mon métier, quand elle me dit « Fanny, arrête d'éviter de parler tes traumas juste parce que t'as pas encore trouvé la chute », je peux lui répondre « Laetitia, c'est avec l'argent de ces blagues que je te paye, donc arrête de cracher dans la soupe, sinon je parle de toi dans une chronique sur France Inter ». Et ça nous amène du coup à la troisième, à la dernière et principale raison pour laquelle les humoristes deviennent humoristes. L'argent. Évidemment, dans le milieu de la comédie, on se fait un max de thunes.
Fortune.
Moi, depuis que je fais des blagues sur France Inter, oula, mes amis, ils adorent aller faire des courses avec moi parce qu'ils savent combien Nagui me paye. Ils savent que je pourrais utiliser cette pièce d'un euro pour mettre dans le caddie. Donc, il y a plein de raisons de faire de l'humour. Et toutes ces raisons font que ça peut être un peu difficile d'être ami avec un humoriste parce que parfois, ce sont des gens qui ont du mal à s'intégrer en société, qui savent pas extérioriser leurs émotions, qui tentent de combler comme ils peuvent leurs besoins de validation. Mais soyez gentils avec eux, aimez les humoristes, épousez-les même, parce que n'oubliez pas que peut-être qu'ils finiront par remplir des zéniths, ils feront un max de blé et puis ils mourront à 30 ans d'une overdose quand la dureté de l'existence aura eu raison de leur fragilité. Wow. Et ce serait bien dommage de passer à côté d'un héritage facile.
Merci Fanny. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici la musique qu'aime écouter Cyril Lignac en 77, période de sa naissance.
Ah oui, je venais de naître.
Attends, on va écouter un peu. C'est la reprise.
Oh Lord.
Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood, Leïla.
77, c'est donc l'année de votre naissance, Cyril Lignac. Et forcément, quand on pense à l'enfance, il y a des saveurs, j'imagine, des odeurs qui reviennent. Vous aviez la chance d'avoir des parents qui cuisinaient, tous les deux, qui aimaient ça. Vous parlez surtout de votre père et de sa façon de faire rôtir doucement la dinde de Noël. Qu'est-ce qui vous vient comme saveur quand on évoque le foyer familial, parental ?
Bah, beaucoup de tendresse, en fait. Ouais. C'est pas tellement la cuisine, c'est surtout... j'ai grandi dans une famille aimante et une famille unie. Et donc, du coup, ça me rappelle ça, en fait. La cuisine, c'est un prétexte, entre guillemets, mais c'est cette famille menée par ma maman qui était vraiment très unie, quoi. Donc hyper attachant, quoi. C'est réconfortant.
En 1997, vous écoutiez... Il y a eu un décès ?
Non.
Imagine.
Vous avez acheté une Mercedes, peut-être.
C'est pour ça. Non, mais quand Elton John arrive et chante cette chanson, soit Marilyn Monroe est morte, soit Lady Di est morte.
Tu fais
une fête, Elton John qui chante ça, tu dis qui est mort.
Un petit créneau dans le tunnel de l'Alma.
Non mais c'est selon les années, j'avais le choix de la musique. Donc, c'est vrai qu'à ce moment, j'écoute Elton John parce que. Il fait sa tournée d'adieux et donc du coup, je suis un garçon très mélancolique. Et donc, c'est assez marrant.
Et la passion des fourrures roses aussi, mais ça c'est.
Mais avant de me coucher, je peux écouter cette musique. C'est calme, c'est doux.
Elton John, c'est formidable. Cette chanson-là, moi, elle me fait flipper, quoi.
Mais non, pas moi.
Ah bon, ok, d'accord. Très bien.
Ça va bien avec la date. Ça va bien parce que 97 et ce qu'on va raconter 97. Cyril, j'essaie de vous aider là, on va pas m'aider aussi.
Je suis très mélancolique. Ouais, j'aime bien cette musique.
Vous devenez apprenti en cuisine. À l'auberge du Vieux Pont à Belcastel dans l'Aveyron. Et ça vient après un repas que vous vous êtes offert.
Ouais, c'est ça.
Avec de l'argent de votre
volé.
Grand-mère.
Exactement.
Non, que votre grand-mère vous avait donné pour Noël, c'est ça.
En fait, je suis rentré dans ce métier. Bon, j'ai appris la cuisine au lycée hôtelier, bon voilà. Et puis, ma grand-mère m'avait donné 500 francs à l'époque. Et il y avait un magazine de cuisine.
Énorme, ça.
Oui, beaucoup d'argent.
Bah oui.
Et du coup, je l'avais dépensé. Donc, j'avais surtout rien dit à mes parents parce que c'était beaucoup d'argent. Et j'étais parti avec un copain manger dans ce restaurant qui avait une étoile au Michelin.
Ouais.
Sauf que c'est quand même le 25, le soir de Noël. Donc, j'ai mangé... on a quand même allègrement festoyé à la maison.
Okay.
Et donc, on s'en va avec mon pote dans ce petit village. Donc, tu descends, il y a la brume. C'est un petit village de l'Aveyron, dans une cuvette, un très beau village. Et donc, on rentre, nous, deux minots, 18 ans. Menu dégustation, trotte de prix. Et donc, on mange. Et là, c'est la révélation. Mais la révélation pour moi. Je me dis, la cuisine, c'est ça. C'est pas la quiche Lorraine, le poulet sauté que j'apprends à l'école, en fait. La cuisine, c'est ça. Donc, le soir de Noël, le soir de Noël de 25, 18 ans, on paye en espèces, donc 500 francs, hein, cadeau. Donc, les sœurs, elles me regardent un peu, c'est qui ces deux jeunes, d'où ils sortent. Et le lendemain, j'appelle, je me déboulonne pas et je dis, voilà, on est les petits jeunes qui sont venus manger. Moi, j'ai envie d'apprendre la cuisine avec vous. Je voudrais faire un apprentissage là.
Génial.
Et elle me dit, on prend pas d'apprenti, on n'a jamais pris d'apprenti. Et j'avais déjà un peu de culot. J'ai dit, ce sera la première fois.
Génial.
Donc, Nicole s'est tendue, c'est qui ce jeune? Ok, je le reçois. Donc, j'y suis allé. Et donc, je suis rentré en apprentissage là et c'est de là que ma carrière a commencé.
En 2000, trois ans après.
Ah, c'est à top.
Et c'est là que vous épousez Elton John et vous faites une grosse fête.
Les Daft Punk avec One More Time.
Là, c'est la teuf. On arrive à Paris, je découvre la vraie vie, je sors de l'Aveyron, la mélancolie d'Elton John, tu vois. C'est la
teuf.
Et vous allez dans un restaurant, vous découvrez en fait la grande cuisine à Paris dans un restaurant qui est une référence aujourd'hui, notamment pour les végétariens.
Ouais, c'est l'Arpège, le restaurant d'Alain Passard qui est aussi une grande référence chez les chefs. Comment vous, là aussi au culot, vous faites la tournée? tournez des restos et vous dites bonjour, je suis dispo.
Au culot, je finis mon service militaire à la gendarmerie. Je regarde à Paris les restaurants qui me faisaient rêver et j'y vais, j'envoie des courriers et je me dis ben au diable l'avarice, il y a bien quelqu'un qui va me répondre. Bim, Alain Passard, je monte en train, j'arrive gare Austerlitz. Ça c'était quelque chose de monter de l'Aveyron en train, d'arriver train de nuit 7h du matin Austerlitz.
Ah, c'est la double peine.
Ah ouais, le débarquement. j'arrive. Et du coup.
Dans une petite chambre en plus, je crois.
Dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Ouais. J'ai jamais montré ça à ma mère parce que je pense qu'elle m'aurait rapatrié dans l'Aveyron. Mais j'étais heureux. Les murs étaient en couleur piscine, le liner de piscine. Ouais.
Ah, c'est hyper
parqué
beau,
avec des petits moutons par terre. Chambre de bonne, toilette sur le palier. Tout ce qu'on adore.
Nickel, impeccable.
Me voilà, Paris. Paris me voilà.
Est-ce que à nous deux, Paris.
Alain Passard, il est... Alors, corrigez-moi si je me trompe, il fait beaucoup de légumes, oui, et de cuisine végétarienne. Mais il y a quand même quelques viandes ou quelques poissons à sa carte.
Hein. En fait, quand
il
je suis
pas,
arrivé...
Il n'a pas tout barré.
Il n'a pas tout barré. Mais quand je suis arrivé à Paris, on rôtissait les viandes, on faisait des poissons entiers au four. Et là, il a eu la révélation de dire « Stop, j'arrête ». C'était 2000. « J'arrête ». Et je vais passer aux légumes. Et donc, il avait monté un potager, cultivé des légumes dans la Sarthe.
Qu'il a toujours.
Qu'il a toujours. Un dans la Sarthe, un autre à côté, à une heure
en
de Paris.
En région parisienne, ouais.
Et du coup, là, j'ai découvert la cuisine légumière. Donc, finalement, c'était
et donc de
top.
Suivre, et donc, de suivre les saisons aussi, déjà.
Et de suivre les saisons, d'apprendre que les bonnes tomates, finalement, elles sont là en septembre. Parce qu'elles sont gorgées de soleil tout l'été pour les manger. Enfin, c'était dingue. Vraiment une révélation pour moi.
Ça doit vous faire plaisir d'entendre ce discours-là, Sonette. Alors, je vais prendre mon élan pour pas faire de bêtises. Amzelouyan.
Bravo.
Ça va?
C'est ça.
Ok, super. Je peux vous appeler Sonette?
Vous pouvez m'appeler Sodé, oui.
Ça va m'arranger.
C'est plus court.
Vous êtes administratrice du réseau AMAP, Île-de-France. AMAP étant l'acronyme de...
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Voilà, c'est exactement le discours que tient Cyril Lignac depuis le début de cette émission. C'est ce que l'on redit avec aussi Alain Passard qui a ses propres potagers pour déjà maîtriser la qualité des produits qu'il sert dans ses restaurants ou dans son restaurant. Je
pense. Dans son restaurant, il
en a qu'un. Il en a qu'un. Contrairement à Cyril Lignac, et on va parler de vos différentes adresses. Est-ce que ce discours-là est nouveau? Vous avez besoin d'avoir des chefs comme Alain Passard, Cyril Lignac qui clame haut et fort qu'il faut consommer des produits locaux et de saison?
Je pense que on en a tous besoin, la planète et tous les humains.
Oui, mais
je trouve ça super que tout le monde s'y mette, en fait, que non seulement les associations, les professionnels, les agriculteurs, etc., mais aussi les chefs et la grande cuisine.
Maintenir l'agriculture paysanne, ça veut dire se servir et aller acheter des produits qui sont fabriqués donc en fonction des saisons et en fonction des régions. Est-ce que ça veut aussi dire créer de nouveaux endroits, donc de nouveaux paysans et les aider aussi à avoir de ces nouvelles terres?
Oui, ça veut dire essayer de... C'est pas tant se servir que d'avoir un rapport direct en fait avec les producteurs. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est hyper cloisonnée. C'est-à-dire que vous achetez, vous avez parlé des grossistes, il y a beaucoup d'intermédiaires en fait avant qu'un produit puisse être acheté. Les AMAP,
c'est pour ça que les produits sont plus chers, ce que disait tout à l'heure.
Exactement, c'est ce qui explique en partie les prix. Nous, les AMAP, c'est un système qui est complètement direct.
Sans intermédiaire.
Sans intermédiaire, aucun. Donc il y a un producteur, une productrice qui est en rapport direct avec des citoyens, des acheteurs. Donc eux, ils sont heureux et ravis de savoir... de récupérer chaque semaine un panier donc ils savent comment c'est produit, ils savent d'où ça vient.
Oui, parce que c'est un système d'abonnement.
C'est un système d'abonnement à l'année.
On paye et on a son panier sans savoir d'ailleurs ce qu'il y aura dans le panier.
Exactement.
C'est en fonction de la production où on découvre de nouveaux légumes. Tu voulais dire ça?
Je voulais juste recentrer la photo de la map. Ça a sauvé des agriculteurs. C'est-à-dire que chaque semaine, toute la récolte des producteurs part dans des paniers qui arrivent dans les villes où les gens vont récupérer, s'abonnent. Alain Passard le fait aussi. Ce que je trouve formidable, puisqu'on parlait d'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est aussi une manière d'avoir des bons légumes, de sauver, de faire un geste pour les agriculteurs, de sauver leur travail, en même temps de payer pas trop cher et de t'obliger à cuisiner les produits de saison. Et finalement, tu récupères ton panier et tu sais ce que tu as dedans.
Mais alors ça, c'est peut-être bien.
Je trouve ça génial. Vraiment, c'est.
Écoutez-moi, c'est la révolution agricole. Je vais jouer l'avocat du diable, comme on dit. C'est facile quand on s'appelle Alain Passard ou Cyril Lignac de recevoir un panier et sans trop savoir ce qu'il y a dedans et de dire je vais toujours trouver quelque chose à faire. Mais pour des simples consommateurs qui ne sont pas des chefs et encore moins des chefs étoilés, on se retrouve avec des trucs, on sait même pas ce que c'est, on les reconnaît pas.
Oui. Mais c'est bien ça le drame.
Mais voilà,
c'est bien ça le drame. C'est fou. Hein.
Et justement, au contraire, si ça peut permettre aux gens de découvrir des légumes, d'aller sur internet, de trouver une recette, de faire manger du pané, de faire manger du chou-fleur, graffiti, coloré, je trouve ça super.
Qu'est-ce
et là,
vous
on parle plus d'argent.
Moi, je dis que quand même, en ce moment, on a quand même des patates. C'est quand même, tout le monde connaît, je pense, les pommes de terre.
Tu connais, Nagui?
On a parlé beaucoup de potiron, petit marron. Il y en a aussi beaucoup.
On cuisine, on fait pas, il y a différentes patates, et ça dépend de ce qu'on en fait des patates.
Pierre?
Non, mais je veux dire,
Non, mais ça me fait plaisir.
Je te fous de moi.
Je suis tellement content.
C'était ta première, et la dernière fois. T'as fait deux fois en une, toi.
Non, mais c'est vrai qu'on peut découvrir des nouveaux légumes. Mais c'est pas que de la nouveauté non plus.
Donc c'est pas si difficile que ça à vos yeux. Comment ça fonctionne? On s'abonne comment?
Alors d'abord on essaye de trouver une AMAP près de chez soi.
Donc on va sur internet.
Il y a beaucoup de demandes quand on est en ville. Il y a malheureusement pas beaucoup de paysans installés. On en parlait tout à l'heure. Donc pas beaucoup de disponibilité.
On trouve la AMAP comment? Vous avez un site internet?
On a des sites internet.
On tape son adresse et là il y a une.
Vous tapez trouver une AMAP.
Il faut aussi prendre tôt dans l'année. Faut le dire. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est un peu comme les rentrées scolaires ou de la place en crèche. C'est-à-dire que quand on s'y met un peu milieu d'année, c'est compliqué.
C'est parce que c'est le succès.
Expérience personnelle, mais
c'est la rançon du succès ou pas?
C'est la rançon du. Je pense que c'est la compréhension et le fait que la conscientisation des gens. Enfin voilà, les gens ont compris que les saisons étaient importantes.
Donc si on vient et qu'on s'inscrit et qu'il y a plus de place, est-ce
on
que
peut
déjà
être sur liste d'attente, on peut récupérer les paniers des vendus.
Mais est-ce que ça, vous recevez ce message-là comme étant il y a de la demande, à nous d'augmenter aussi l'offre?
Alors nous, ce qu'on fait en tant que réseau et les associations, on met en relation les citoyens, les acheteurs avec les producteurs. On essaie de créer des nouvelles AMAP. Et surtout, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est d'installer des nouveaux paysans. C'est surtout ça, parce que
c'est ce que je comprends quand vous dites créer de nouveaux nouvelles AMAP, c'est ça aussi, c'est de nouveaux paysans.
Ça va jusqu'à installer des nouveaux paysans, oui.
D'accord. Et alors là, comment faire pour faire partie de l'AMAP, c'est-à-dire pour être producteur de légumes et être distribué par AMAP?
Il faut nous contacter en fait. En fait, c'est pas tant comment être un producteur et être en rapport avec des acheteurs. C'est surtout aujourd'hui, on a beaucoup notre agriculture, elle est très industrielle en fait.
Trop.
Beaucoup trop, bien sûr. Elle est monolithique et donc c'est surtout ça, c'est changer les modes de production. Et donc quand on a un nouveau installé qui en fait veut vendre en AMAP et qui produit sans intrants chimiques. En Île-de-France, en fait, ils nous contactent et nous, on le met en rapport.
Est-ce que ça existe dans les autres pays, ça? Ou est-ce que c'est typiquement français, AMAP?
Alors oui, ça existe dans d'autres pays. C'est pas une innovation française. La première a été créée en France en 2001. Mais en fait, ça date des années 70 et ça vient du Japon.
Carrément. Ah ouais,
carrément. Donc ça vient du Japon. Ça a fait le tour du monde, en fait, avant d'arriver en France.
Et même la MAP n'est pas un produit local. On ne sait plus comment faire.
Mais maintenant qu'il y a une grosse demande, pourquoi ne pas limiter l'offre? Comme ça, vous pouvez faire un maximum de fric.
Vous cherchez un gestionnaire ou pas?
Oh là, ce mec est pourri.
J'essaye de trouver des solutions maintenant.
On tape juste AMAP dans n'importe quel moteur de recherche et on tombe sur vous, quel que soit l'endroit. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus mieux achalandées que d'autres?
Oui, c'est vrai que les régions plus citadines sont plus demandeuses. Les régions où il y a beaucoup plus de fermes, où les gens vont plus à la ferme, sur les marchés, c'est moins demandé. Ouais. Mais
oui, parce qu'en région, souvent, les gens font ça avant la création des AMAP. C'est-à-dire aller chez le producteur, aller acheter ses œufs, chercher son lait. Ils n'ont pas besoin d'AMAP pour le faire, ouais, c'est sûr.
Merci beaucoup, Sodé, d'être venu vanter les réseaux AMAP. Vous faites partie du réseau AMAP Île-de-France, mais il y en a 150 en tout en France, c'est ça?
Il y en a 2000. Il y en a plus de 2000.
D'accord. Alors, on me dit 100.
300 groupes. Il y en a 300. Il y en a plus de 300 en Île-de-France, mais dans toute la France, il y en a à peu près 2000.
Ah ouais,
2000 groupes.
Très bien, pardon. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Au Japon, un hôtel a inventé la chambre à 1 euro.
Oui, 1 euro, c'est peu, ça équivaut à 1/1000 de seconde de la vie de Bernard Arnault. Alors, comment cet hôtel peut-il proposer des chambres aussi peu chères? Eh bien, c'est simple, le client doit juste accepter en retour d'être filmé H24, diffusé en live sur YouTube. Ah. Moi qui ai de très jolies fesses, j'ai très envie d'y aller.
On en parle après les infos. Bonjour et encore un très joyeux Noël à toutes et à tous. La bande originale s'est repartie avec Leïla et Daniel et notre invité du jour, Cyril Lignac, entouré de la bande originale, venu nous régaler grâce à son dernier livre. L'ouvrage s'appelle « Saison ». 80 recettes avec ce sourire qui vient barrer la une de ce livre aux éditions de La Martinière. Et alors moi je voulais souligner aussi ce qu'il y a à la fin de votre livre, les bocaux.
Ah oui, ça c'est l'Aveyron. Parce que les hivers étaient rudes. Non mais je trouve que c'est super de faire son vinaigre, de selon les saisons, on récupère des agrumes, des fruits, des aromates.
Pardon, là aussi c'est un réflexe de nos grands-parents.
Oui.
Lorsque, au mois d'août, les pieds de tomates fournissent tellement de tomates qu'on ne peut pas les manger toutes pendant qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait des bocaux, on en fait des sauces, on en fait des confits, on les garde. Exactement. Et puis il y a du boulot à Paris. Il y a Auprès, qui est le restaurant qui est dans le 6e arrondissement avec toutes les influences du monde. Il y a le bar des Prés, on va dire plutôt quoi, asiatique.
Oui, japonais, cru.
Il y a le Chardenoux, lui, qui est dédié aux poissons dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est dans le 11e arrondissement.
Coquillages et crustacés.
À Paris, voilà. Et puis combien de pâtisseries maintenant ? 5 ?
5.
C'est fou.
Et la chocolaterie. Qui vient rajouter à ça. Alors, le chocolat, il vient d'où, le chocolat ?
Il vient de partout dans le monde, parce qu'on travaille à la maison Valrhona avec des grands crus. Donc ça peut venir de Papouasie, du Venezuela.
Le chocolat vient forcément du bout du monde. Il n'y a pas de chocolat français. Non, mais je pose la question.
J'ai pas vu de graines de cacao en France. Mais ça vient plutôt des pays chauds, humides, le Brésil, Madagascar, toutes ces îles.
Amérique latine, Afrique,
partout. Et du coup, nous, on fabrique pas notre chocolat à base de fèves de cacao comme font certains chocolatiers. Moi, j'achète des crus de chocolat que l'on fond, que l'on transforme, avec à l'intérieur, on fait des tablettes, on fabrique par exemple tous nos pralinés, les confitures, tout ce genre-là, on fabrique, et ensuite on met à l'intérieur des bonbons.
Ah ouais.
Ça vous laisse
bouger. Oui, bonbons, qu'est-ce que vous appelez des bonbons ?
Le bonbon au chocolat, c'est un chocolat fourré. Ça s'appelle un bonbon.
Okay, comme un chocobon, Nagui.
Non, mais dès l'instant où vous rajoutez une noisette, une amande ou quoi, ça devient un bonbon.
Un bonbon, oui, sinon c'est une tablette de chocolat.
D'accord. Vous parlez de cru comme si le chocolat était comme un vin, quoi.
Ah oui, c'est comme un vin. Puisqu'il y a différents crus selon les provenances et selon le taux de cacao, plus ou moins amer, plus ou moins sucré, plus ou moins avec des saveurs différentes.
Vous faites partie de ceux qui disent que le vrai chocolat est forcément chocolat noir ?
Ah, pas moi.
Ah. Il peut être au lait, il peut être praliné, caramel beurre salé aussi.
Alors, de toute manière, c'est comme dans le café. Dans le café, maintenant, il y a des grands crus de café. Mais pour moi, le chocolat, c'est pas que le chocolat noir fort avec du caractère. Le chocolat, c'est aussi du chocolat au lait. Alors, je suis d'accord que le chocolat blanc, c'est plus du beurre de cacao. On est tous d'accord. Mais dans le chocolat lacté, bien entendu qu'il y a des saveurs totalement différentes. Et je préfère le chocolat au lait parce que c'est comme un calé, en fait. C'est un truc
plus doux. Ouais.
C'est un truc qui est... Tiens, je suis un petit enfant.
Je vois. Tanguy Pastureau nous a rejoint. Tanguy, vous allez beaucoup à l'hôtel, on m'a dit.
Oui, pas par passion, bien sûr, parce que personne n'a envie de dormir dans une pièce où, si ça se trouve, des inconnus se sont sodomisés la nuit précédente.
Oh, mais
non, je dors à l'hôtel dans le cadre de mes spectacles à travers la France, où des fans transissent, arrachent ma liquette en hurlant « On t'aime, mon gros loup !» Et ensuite, je me réveille et c'était un rêve. L'hôtel, c'est sordide, il n'y a même pas Netflix. Certains samedis soirs à minuit, je me retrouvais à regarder France 3. Si on m'avait dit à 14 ans que ça serait ça mon avenir, à 14 ans et un jour, je me serais coupé les veines avec la tranche d'un de mes posters de Samantha Fox, au nombre de 2700, que je cachais sous mon lit. Du coup, le lit culminait à 4,3 mètres du sol. Pour en descendre le matin, j'avais un piolet et une corde. C'est là que j'ai appris les descentes, en rappel. Et depuis Greta Thunberg et les ONG là qui font des fake news sur le climat, parce qu'il a toujours fait 42 degrés en mai à Dijon. Hein, on ne le sait pas, mais c'est à Dijon que sont nés le reggae et le chikungunya. Et bien, dans les hôtels, on vous fait la leçon. Dans la salle de bain, il y a un carton avec écrit « Vos serviettes plantent des arbres ». La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Comment font-elles ? Enfin, les serviettes n'ont pas de bras. C'est leur point commun avec les mendiants bulgares. Même si elles en avaient, elles préféraient jouer à la console ou faire du jokari. » Puis j'ai compris le principe. Si vous voulez garder la même serviette de bain pour le lendemain, vous la laissez sur le portant et vous sauvez la planète, certes avec votre voisine qui trie ses ordures. Et si vous vous en fichez, vous la mettez dans la douche. Tous les jours, on vous la lave. Mais si vous croisez Artus Bertrand, il se rase la moustache et vous fourre les poils dans le gosier jusqu'à ce que vous creviez. Ensuite, il jette votre corps depuis son hélico au-dessus du Puy du Fou, où des aigles se partagent votre corps. Oui, l'hôtel est un lieu sordide, à faire passer un abattoir de porc dénoncé par L214 comme la maison de Nif Nif et Nouf Nouf. On vous donne une carte magnétique pour ouvrir la chambre. Eh ben, il suffit que vous approchiez la carte de votre portable ou de votre femme qui bouffe trop de sushis au thon bourré de mercure. Ben, elle se démagnétise. Vous êtes là comme un con devant la chambre 205. Et même si vous frappez à la chambre 204 en disant « Ouvrez-moi, je suis Nagui ». Ok, on vous ouvre, mais très vite la personne réalise que vous n'êtes pas Nagui. Moi, je l'ai fait 20 fois. Je criais « Jean-Luc, bloque-tu ces paroles ?» Et d'autres phrases symboliques de vous, Nagui, comme « Ah, ce Tanguy Pasturo, mais bordel, quel génie !» Eh ben, on m'a fermé la porte au nez. Donc, il faut redescendre à la réception, faire remagnétiser la carte. Il y avait un système super avant, ça s'appelait la clé. Ça marchait nickel. Hein, c'est impossible de démagnétiser une clé. Ou alors que si vous revenez de la zone irradiée de Tchernobyl, et dans ce cas, si vous claquez la bise à votre tante qui a un pacemaker, le truc explose et Tati, 7 secondes plus tard, a les dents enfoncées dans le mur. Mais pourquoi, me direz-vous, est-ce que je parle des hôtels? Eh bien parce qu'à Fukuoka, au Japon, le propriétaire d'un hôtel propose des chambres à 100 yens la nuit. 100 yens, c'est rien. Si Florian Philippot se met en vente sur le bon coin, avec son parti plus un pins de son parti, ça vaudra 100 yens. Ça correspond à 1 euro.
Et... Alors 1 euro, mais comment peut-on faire des chambres à 1 euro?
Alors c'est très simple. En échange du coût modique de la chambre, 1 euro c'est le prix d'un repas gourmand pour Lily Rose Depp. On doit accepter d'être filmé 24 heures sur 24 et d'être live streamé sur YouTube. Alors live streamé, c'est un terme pompeux pour dire qu'on est en direct. Hein, en 87, Guy Lux était live streamé avec des vachettes sur TF1. Du coup, la diffusion génère de l'argent, l'hôtelier s'y retrouve et en plus, il crée le buzz. Hein, ça veut dire faire un coup. Par exemple, une soirée du Ku Klux Klan au Sénégal, ça ferait le buzz. Après, ça veut dire aussi perdre la vie, mais enfin, c'est accessoire. Mais attention, l'hôtelier a établi des règles. Hein. Le Japon est très ordonné. C'est la différence qu'il a avec le sac banane de Jean-Louis Borloo. Les actes sexuels sont interdits, alors que c'est tout ce qu'a priori on a envie de voir en direct sur YouTube. L'être humain est ainsi. Il veut du sexe, de la baston, du rock et des glaviots. Si c'est pour voir un couple en train de lire Adulte et les Z, ça vaut pas trop le coup. D'autant que ça peut vous trahir. Vous êtes le panda de Massinger. Vous prenez la chambre à 1 euro, sans savoir que vous êtes en live. Vous retirez la tête du panda et là tout le monde réalise que vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès. La seule star du programme, puisque les autres c'est Smaïn et Lio. Il reste à découvrir Cookie Dingler, Jean-Pierre Chevènement et Footix. En plus, l'hôtel précise qu'il n'y a pas de son dans les lives. Donc vous voyez un type montrer à une dame une savonnette. Vous ne savez même pas s'il lui dit « Bébé, tu veux la salle de bain ?» ou alors « J'y vais d'abord ?» ou s'il lui dit « ma grosse tanche, on va se le faire ce jeu de rôle. Je suis Patrick Balkany et tu es la gardienne de prison un peu rude, sachant que j'ai été très 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 méchant. » Bref, ce qui au départ était une belle idée se retrouve gâché par la pudeur des Japonais. Ces gens qui jamais ne se lâchent. Au fait de Dax, il n'y a pas un Japonais. Dans les soirées de Patrick Sébastien, on fait l'hélicoptère. Il n'y a pas un Japonais, même pas un ULM ou un petit truc. Sur les plages nudistes, on est sur de l'allemand et du belge. Il n'y a pas un Japonais. Du coup, l'hôtel reste un concept glauque où quand on trouve dans son lit un poil du précédent, on a l'impression de vivre une relation très intime avec quelqu'un. Alors, si vous avez 1 euro et que vous n'êtes pas dans Mask Singer, allez-y, c'est pas cher et on vous voit juste en peignoir en train de mater France 3 ou alors une chaîne japonaise aussi déprimante que France 3.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale de Cyril Lignat continue après Heavenly, le titre de Cigarette After Sex.
After Sex, bravo, jour de Noël, ça se trouve, il y a des gosses.
Now you're above, feeling it still. Tell me.
La bande originale ce matin, c'est avec Cyril Lignac pour son nouveau livre de recettes indispensable. Il s'appelle Saison, son livre. Qu'est-ce que tu retiendras de cette rencontre, première rencontre dans la bande originale
avec
Cyril Lignac?
J'adore les livres de cuisine parce que mais je suis complètement inapte. Donc ça me fait quand même plaisir de voir des gens qui savent faire plein de choses, qui ont plein d'idées. Je suis très admirative des cuisiniers, des pâtissiers et de tous ceux qui savent donner un peu de bonheur aux gens avec des aliments et un peu de temps.
Fanny Ruet.
Mais moi, ça m'a permis de me rappeler l'existence du panais.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, ouais.
Tanguy Pastureau.
Moi, j'ai hâte de le voir se faire engueuler par des napolitaines un peu frustres. ça va faire plaisir. Voilà.
Tom Villa.
Ce qui est chouette, c'est grâce à lui, il y a 15 ans avant la cuisine et les cuisiniers, c'était un peu des vieux et c'était un peu le truc à papa.
Ringard. Ouais.
Et grâce à Oui Chef et tout ce qu'il a fait après, ça a été l'un des pionniers. Donc, ça a ouvert la porte à plein de gens. Donc, je trouve ça chouette.
Daniel.
Moi, c'est la première fois que Cyril Lignac venait dans cette émission. Je m'attendais au pire. Finalement, je le trouve hyper sympathique et c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation dans un de vos restaurants. Merci Cyril.
Les saisons, toutes ces saisons visitées, revisitées, détaillées, écrites d'une manière jouissive par Cyril Lignac, parce que c'est que du plaisir autour de ces recettes. Ça donne envie, alors même si on n'est pas doué, je suis d'accord, Leïla, ça donne quand même envie d'essayer.
Oui, bien sûr,
et de respecter ces saisons, ce qui est quand même le mot d'ordre, de faire du bien à notre agriculture française et à nos éleveurs, et de respecter les saisons. Merci Cyril Lignac.
Merci. J'étais ravi.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais tout de suite, voici Moment.
Bon, ça sent la bûche, mais la vraie, avec des compos.
Moment, c'est l'épisode 3 à écouter et à déguster. Jean-Claude Grinvert l'a signé, c'est adapté pour la radio par Zabou Breitman et Antonin Chalon. On se retrouve quant à nous demain avec Roberto Alagna.
Oh, génial, j'adore.
Joyeux Noël, ça vous gênera de le dire ?